Good Morning Business. Le débat.
Je vous donne le dernier sondage Harris Interactive. Le RN pourrait obtenir entre 235 et 265 sièges à l'Assemblée nationale. Ça ne fait pas une majorité absolue, mais ça peut faire rentrer tout à fait Jordan Bardella à Matignon. Ça inquiète les milieux d'affaires. La question qu'on pose ce matin, Nicolas Do, Jean-Marc Daniel, c'est est-ce que la France Business Friendly s'est terminée? Est-ce que c'est grave, là, ce qui se passe en ce moment?
Il est certain que si Jordan Bardella entre à Matignon pour 3 ans, là, c'est quand même économiquement sérieux. Qu'est-ce qu'il y a derrière Jordan Bardella à Matignon? Il y a une hausse des dépenses très importante. On ramène pas la retraite à 60 ans sans que ça coûte de l'argent. Vous avez vu déjà que même avec le système actuel, on va être dans le rouge. Nous a dit le COR, enfin les premiers éléments qui ressortent du rapport du COR rendu public jeudi, nous dit qu'on est dans le rouge dès 2024.
Alors il dit plus 60, hein. Il dit 64, 60 pour certains qui ont travaillé très tôt.
Ça a jamais été très clair. Les curseurs ont tendance souvent à bouger avec les engagements du RN. Il y a un moment, ils voulaient abandonner l'euro, c'est plus le cas. Il y a des choses qui, ils étaient contre les pesticides, contre le nucléaire, pour le nucléaire. Bon, ça change. Mais en tout cas, il y a des dépenses. Un fonds souverain à 500 milliards d'euros, faut bien le trouver quelque part, le fonds souverain. Faire un chèque formation à 200 euros ou 300 euros par mois, c'est pareil, ça se finance. Très bien, on désindexe pas les pensions de retraite. On voit ce que ça coûte dès 2024, le fait de les avoir totalement indexés sur l'inflation. Après, vous avez une baisse de recettes. Donc, plus de dépenses. Beaucoup moins de recettes. La TVA, c'est la première recette publique. Si on met la TVA à zéro sur 100 produits et qu'on la baisse sur des quantités d'autres choses considérées comme nécessaires à la vie quotidienne des gens, ça fait des recettes en moins importantes. Si on exonère de cotisations sociales les hausses de salaire jusqu'à 3 SMIC, quand c'est des hausses générales de 10%, ça coûte de l'argent. Il faut bien la financer, la sécurité sociale. Si on exonère d'impôt sur le revenu les moins de 30 ans, c'est autant de recettes d'impôt sur le revenu en moins. Si on exonère d'impôt sur les sociétés les patrons de moins de 30 ans pendant 5 ans, c'est autant de recettes en moins. Enfin, il y a un moment, si vous voulez, il y a des équations économiques qui ne fonctionnent plus. Après, les promesses d'économie budgétaire sont quand même toujours incertaines. Brandir, comme beaucoup, la lutte contre la fraude en disant c'est génial, les milliards sont là.
Ça,
oui.
C'est un mirage depuis toujours.
Mais c'est un mirage. François Eckhall, qui regarde ça non pas avec un œil politique mais un œil technique, vous dit que là maintenant on est à peu près à 11 milliards recouvrés et rentrés dans les caisses sur la lutte contre la fraude fiscale. On a beaucoup de mal à aller à 12, à 13, 14. C'est compliqué. Bon, après, il y a une hostilité claire vis-à-vis de l'Europe. Alors oui, on ne verse plus dans le Frexit. Enfin, l'hostilité vis-à-vis déjà de nos pays et partenaires les plus
proches. Préférence nationale sur les importations, déjà. Bon.
Et alors ensuite, vous avez l'hostilité vis-à-vis du libre-échange, la remise en cause des traités de libre-échange et puis cette notion de juste échange pour remplacer le libre-échange, l'idée qu'il faudrait de la réciprocité. Seulement, si vous avez des traités que vous dénoncez, les pays avec qui vous avez dénoncé ces traités sont des pays avec lesquels vous ne négociez plus. Et si vous ne négociez plus avec des pays, obtenir de la réciprocité, ça devient juste totalement impossible. Vous avez une grande chance de ne pas obtenir de la réciprocité, mais d'obtenir des mesures de rétorsion de la part des pays avec qui vous avez dénoncé les accords que vous aviez. Après, les accords de libre-échange, ça se regarde accord par accord. Le CETA, c'est pas le Mercosur. Faut pas tout mettre dans le... Donc oui, si on a cette situation-là à Matignon et que le programme, c'est ça, je vous dis clairement que c'est pas business friendly. Depuis 2015, il y a deux moments où on a eu un spread bund OAT qui a dépassé les 50 points de base. Alors un troisième moment hier, hein, on a fait 55 points de base. Ça a été le début de Covid 2020 et ça a été la perspective d'une victoire de Marine Le Pen en 2017 où on a dépassé les 50 points de base entre le bund et l'OAT. Ça a donc des effets, faut pas se leurrer.
Jean-Marc Daniel, je ne vais pas vous demander ce que Ricardo pense du programme du Rassemblement national. Non, je veux savoir ce que vous en pensez. C'est grave d'avoir un programme économique incohérent. À quel point c'est grave pour la suite, pour les semaines qui viennent?
Alors écoutez, je suis toujours dans une situation assez ambiguë dans ce genre d'évolution. Parce que je crois que les programmes aussi aberrants sur le plan économique sont pas fréquents. Mais enfin, on a connu Chirac en 95, on a connu Mitterrand en 81. Et en 81, Jan Tinbergen, qui était prix Nobel d'économie, avait fait un papier dans Le Monde en expliquant que effectivement le véritable enjeu, c'était pas uniquement l'économie, et que de toute façon, il fallait pas se faire d'illusions que la gauche, si elle arrivait au pouvoir, serait obligée de corriger son programme. Et donc, il était très maladroit de la part de l'équipe sortante, notamment de Raymond Barre, de démontrer ces gens-là en disant qu'ils sont incompétents. C'était à la fois prétentieux, maladroit, méprisant. Et donc, lui, Jan Tinbergen, considérait que Mitterrand élu aurait la capacité de modifier, d'adapter à fonction d'une...
Donc le programme n'a aucun intérêt, on s'en fiche en fait, peu importe.
Oui,
après, jurisprudence Mélanie un peu.
Mais Mitterrand, il en a fait des choses au début. Alors l'économie s'est vengée en 83, mais...
En 83, Chirac, il fait un programme en 95 qui est absolument délirant, il insulte tricher en disant vous vous permettez de dire que mon programme n'est pas cohérent, mais je suis mieux sorti de vous que vous de l'ENA, donc je connais, je connais aussi bien l'économie. Je connais aussi bien l'économie.
C'est la réponse qu'il avait fait.
Oui, absolument.
Je suis sorti. Le classement de l'ENA, ça marche toujours.
J'ai fait la même école que vous et j'en suis mieux sorti. Et donc,
bon. Insulte d'élite quand même. Oui, mais
donc
débat.
Moi, j'ai deux places de plus que toi, donc tu vas pas.
Octobre 95, il change totalement de politique économique. Je rappelle que quand François Hollande a été élu, il y a des économistes qui ont signé manifeste appelant à voter Hollande, dont la conclusion, je rappelle la conclusion parce que c'est quand même un morceau d'anthologie, c'est la crédibilité, l'ambition et la cohérence sont du côté de François Hollande. Mais en fait, comment est-ce qu'on a pu écrire, même avant l'élection, même pendant la campagne électorale, des choses pareilles? Et donc, je pense que le véritable enjeu dans cette affaire, c'est l'économiste, il y a une formule célèbre, l'économiste propose, le politique dispose, le citoyen consent. Je pense que le véritable enjeu, c'est effectivement pour les économistes de montrer le caractère incohérent du programme, mais de ne pas non plus donner l'impression aux futurs électeurs et aux électeurs potentiels de la droite nationale ou de l'extrême droite, suivant comment on l'appelle, qu'on les prend pour des imbéciles qui ne comprennent rien à l'économie.
Mais alors, on ne regarde pas le programme.
On le regarde. Mais par exemple, lorsque Nicolas dit sur le libre-échange, mais tout le monde condamne le libre-échange, pourquoi stigmatiser en ce moment le Rassemblement national?
Ah oui, ils sont tous protectionnistes.
Ils sont tous protectionnistes. Donc pourquoi ce serait plus grave dans le cadre.
Ah non, c'est pas grave.
C'est grave de lutter contre le libre-échange. Oui.
Mais c'est grave pour tout le monde.
Oui, mais enfin, tout le monde n'est pas aux portes de Matignon. Voilà, c'est pour ça qu'on pose la question. Voilà. Mais vous nous demanderiez.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut avoir une attitude la plus neutre possible et donner l'impression, comme le disait Yann Tinbergen, qu'il ne s'agit pas d'un combat entre compétents et incompétents. Tinbergen a raison.
C'est contre-productif.
C'est à la fois contre-productif et c'est très, très dangereux sur le. Exactement. On l'a vu avec Trump, on l'a vu notamment, encore une fois, avec Chirac.
Mais du coup, on va fermer la boutique, là. Est-ce que vous nous dites si on.
Non, il dit voilà ça et c'est. Voilà,
attendez,
c'est pas cohérent. Et puis après, les lecteurs consentent.
Vous savez, lorsqu'on fait campagne en prose, en vers, et on dirige en prose, prenez ce que racontait avant d'arriver Tsipras en Grèce et ce qu'il a fait. Prenez Mélanie avant Mélanie aujourd'hui.
Ah, Milei, il met exactement ce qu'il a dit. Hein,
Milei, oui, c'est particulier, Milei. Mais ce qui est terrible, c'est que dans ceux qui avaient signé pour Hollande, il y a plein de gens qui viennent chez nous, et notamment dans mon émission régulièrement.
Alors, ils ont changé, non ?
Pas mal sont. Oui, il y a des repentis.
Ils devraient raser les murs.
J'espère qu'ils ne croient pas Jean-Marc.
Non, mais il ne faut pas être donneur de leçons, c'est vrai. Moi, d'ailleurs, je vous donne juste les éléments.